Chapitre 26. Le Pilate, 15 août. Hier, dans la soirée, le vent a tourné, la pluie a cessé, et ce matin, par un beau soleil, nous sommes partis. Mais au lieu de faire notre excursion d'une façon raisonnable, c'est-à-dire de prendre de grands bâtons ferrés, de peiner en montant au Pilate, de nous briser comme il convient au milieu des précipices, nous avons été enlevés tranquillement par le funiculaire. Dans notre compartiment, des voyageurs remarquaient avec discernement que les montagnes sont choses très élevées au-dessus du niveau de la mer. Un Allemand me regardait avec grand intérêt. Voyant que le soleil me gênait, il s'empressa de tirer un rideau et profita de ce petit service pour nous adresser la parole. Il paraissait homme du monde et son affreux français gênait sa politesse. Mais Percé, en sa qualité de demi-dieu, sait tout et plus encore. Il parle l'allemand avec pureté, autant que ce mot peut s'appliquer à une langue aussi dure, et bientôt, grâce à lui, nous fûmes au courant des sentiments de notre voisin qui déteste les Anglais, mais apprécie grandement les Français, peut-être surtout les Françaises. Pendant un arrêt du train, une jeune fille voulut nous vendre des bouquets. Il en prit un, avec la vague intention de me l'offrir. Sans doute qu'en son pays, Dorothée permet cette privauté, mais il le trouva fané et le mit dans sa poche. Il n'est pas déplaisant de faire des conquêtes, même éphémères. Toutefois, les sentiments de cet Allemand ne pouvaient distraire mes yeux des joies de la route. Le Pilate n'est point une montagne banale comme le Righi que les touristes en moutons de Panurge admirent de confiance. Le Pilate est superbe avec ses aspects sauvages, ses grandes déchirures, ses points inaccessibles où des sapins se sont suspendus avec hardiesse, sûrs de mourir sans que la hache puisse les toucher. Il me faisait songer à la belle audace de nos ancêtres. Des bandes de barbares défilaient devant moi, s'accrochaient aux roches, bondissaient par-dessus les précipices pour s'en aller à la conquête d'un territoire et souvent d'un très vain idéal. Hordes disparues qui ressuscitaient pour me complaire, elles animaient la route de leurs cris lointains et de leurs efforts dont nous vivons. Si mes hordes ne se sont jamais déchirées les mains aux roches du Pilate, si elles ne sont pas endormies sous les plantes à l'ombre des sapins hardis, ou si, en cet endroit, elles ne se sont pas couchées, décimées sous l'écroulement des pierres et des sociétés, cela ne signifie absolument rien, puisque ces faits grandioses se sont produits ailleurs. C'est beau, cette existence primitive et farouche. Et comment, en ce temps-là, mon cousin, vêtu de lacets, avec de longs cheveux et de longues moustaches, maniait-il l'angon et défendait-il son clan ? Comme vous étiez grands autrefois, tuteur, dis-je tout à coup. À quel propos me dis-tu cela ? À propos des Gaulois, auxquels ces sapins entreprenants me font penser. Quelles sont donc les qualités qui, existantes alors, ont résisté en vous à l'accumulation des siècles ? Remuez la cendre, cousin, et dites-moi ce que vous découvrez. Je découvre que tu divagues. Quelles singulières analogies vous cherchez, mademoiselle ? Me dit M. Envec. D'abord, rien ne dit que les Gaulois ont jamais vécu ici. Qu'importe, s'il me plaît de les y faire vivre et de les regarder passer. Supposons que, tous les deux, on vous renvoie dans leur maison pointue, avec du feu au milieu et la fumée qui s'échappe par le haut en vous aveuglant. Quelle mine singulière et désolée vous auriez ? Je n'ai jamais pensé à cette éventualité, mademoiselle. D'abord, à quoi pense-t-il ? Même pas à ses ancêtres et à la fumée de leur maison en montant au Pilate. Ces réflexions, écoutées avec un profond recueillement par l'Allemand, parurent accroître son intérêt. Il mit la main dans sa poche et en tira à demi le bouquet, manifestation qu'il ne pouvait pousser plus loin, mais dont il pensa peut-être que je lui savais gré. En sortant du funiculaire, on débouche sur un plateau que l'homme a civilisé, car pour atteindre le pic le plus élevé du Pilate, il faut suivre un chemin entouré de parapets. En face de soi, des sommets couverts de neiges immaculées. Il semble que, les atteignant après une heure de marche, on découvrirait un pays habité par des êtres d'une essence particulière, mais le pied de l'homme n'a jamais touché ces terres, dont les tons varient d'instant en instant, comme pour nous faire comprendre les ravissements successifs des mystères que nous pénétrerons un jour. Devant la majesté sévère de ces sommets vierges, ce n'est plus, ainsi que sur les lacs, un sentiment de douceur exquise qui mouille les paupières, c'est, au contraire, une émotion forte et virile, je ne sais quoi de tourmenté, d'actif, de profond et de poignant. On sent tressaillir en soi une force immense qui ne peut recevoir son développement des objets bornés et le trouvera quand, les liens tranchés, l'être partira pour aller bien au-delà de ces grandes cimes neigeuses. Je m'assis sur une grosse pierre afin de laisser ce tourment divin oppresser à loisir mes facultés, oubliant que l'homme est animal et demande une nourriture toute terrestre. Allons déjeuner, Hélène. Et comme ces sons vulgaires frappaient en vain mes oreilles, mon tuteur reprit avec un peu d'impatience. Viens donc, petite, il est près d'une heure. Oh, mes Grecs ! Soupirai-je en me levant lentement, car de nouveau je pensais à l'imagination artiste et ardente des Hélènes. Que veux-tu faire encore des Grecs ? Ils eussent déjeuné des grandes pensées que cette vue suggère, tuteur. Elle eût été pour eux un mythe profond, créé tout d'une pièce. J'aime mieux une côtelette de mouton, et en vec aussi. Allons, viens. Vous reviendrez après, mademoiselle, me dit le capitaine, qui est l'homme de la conciliation. C'est vraiment joli ici. Que de neige là-bas! Je me demande s'il y a de la grosse bête dans ces montagnes, si on peut y chasser l'ours. Pendant qu'il exprimait ainsi son admiration, je pensais aux prétendants du voyage en Chine. Le malheureux s'approche de la jeune fille pour lui faire la cour. « Ah, mademoiselle, que la mer est belle! Mais que d'eau, que d'eau !» Cette assimilation m'a été pénible. En mangeant ma côtelette de mouton avec force accessoire, j'ai découvert que la matière n'avait rien de vil, car j'étais affamé, bien que j'eusse avalé du mythe et du divin. Nous avons décidé de coucher ici, et je trouve charmant d'écrire mes impressions de la journée au sommet de cet admirable pilate. Mais inutile de songer aux cieux, nous n'y atteindrons jamais, du moins ensemble. La sagesse veut peut-être que je m'en tienne à la terre. Tout dort dans l'hôtel, le vent siffle, aigre et plaintif. Gémit-il, en ce moment, dans les pins semés au milieu des bruyères ? Il me dirait ce soir : « Tu aimes ? Oui, c'est vrai. La femme aime toujours. Mais ne crois point que ce soit percé. » Chapitre 27. Altorf, 5 août. En arrivant ici, nous avons trouvé le savant, toujours mal habillé au moral et au physique. L'antipathie qu'il inspire à M. de la Platière est décidément invétérée, d'autant que de grands airs pudibonds n'ont aucune prise sur un esprit émancipé par l'étude des grandes races. Mon cousin continue à se demander pourquoi M. Envec est venu. Il voit dans son voyage une fantaisie, et moi j'y découvre l'appel désespéré d'un capitaine aux abois. Et le souvenir du lac inspirant à M. Envec une comparaison qui lui est chère, il me dit d'un ton où, à l'emphase, s'ajoutait une nuance de reproche qui m'a confirmé dans mes pensées secrètes. « Ah, jeune fille, charmante, profonde comme le lac, perfide peut-être comme lui, vous... » « Je croyais vous voir plus tôt, mon père, » interrompit Percé, rouge comme un coq. J'ai été retenue par ta cousine, que j'ai reconduite dans sa maison de préjugés. Son père ne pouvait pas ou ne voulait pas la recevoir pendant les vacances. « Sa maison de préjugés ? » répétai-je. « Oui, son couvent. C'est une enfant orpheline de mère dont son père ne s'occupe pas. Une jeune fille jolie, ah, charmante !» Mais le moral est encore plus charmant que l'enveloppe. Elle aurait besoin d'un foyer, d'affection. En moi-même, je me permis de penser que, sans l'enveloppe séduisante, le moral aurait perdu de son prestige aux yeux de ce savant. « Mariez-la, » dit mon tuteur. « Jamais, je n'ai fait qu'un mariage dans ma vie continua-t-il gravement, celui d'une perruche. Cette pauvre petite bête solitaire m'inspirait une si grande pitié que je suis allé lui chercher un compagnon. Eh bien, qu'est-il arrivé? La femelle a tué le mâle. Pour le reste de mes jours, j'ai été dégoûté de m'occuper de mariage. » Ce disant, il me regardait, pensant peut-être que j'étais de force à suivre l'exemple de sa perruche et à tuer mon mari sans crier gare. Avant de partir, je suis allé voir cette vieille fille que tu protèges, dit-il à son fils. On ne la casera jamais. Pourquoi, mon père? Elle est trop laide. C'est malheureux pour une femme d'être laide. Les hommes sont ignobles, me dit-il. Vraiment? Demandai-je. Ignobles. Ils se laissent influencer par le physique d'une femme pour lui donner une place. C'est dégoûtant. Pour moi, je me ferais un cas de conscience d'être influencé par de semblables balivernes. Avez-vous fait pour elle les démarches dont nous avions parlé ensemble? Demanda le capitaine. Pas encore, pas encore. Nous verrons plus tard. Je ne sais si j'aurai le temps de m'en occuper. Il est certain qu'une bête d'avant le déluge est bien plus intéressante qu'une femme vivante, dis-je tranquillement. Ah, cela dépend. Ainsi ? Monsieur de la Platière se leva et nous partîmes en promenade. Si mon tuteur a souvent l'âme désolée en observant la vie débordante de sa pupille, de quel voile n'aurait-il pas entouré sa face en lisant aujourd'hui dans mes pensées ? J'avais une ardeur, un entrain, positivement endiablé. C'était inquiétant et percé que j'avais envie de lancer par-dessus les montagnes ou de voir monter sur son coursier ailé pour courir à la délivrance d'une autre Andromède, était affolé. En revanche, son père suivait avec intérêt les capricieux méandres de ma fantaisie et, si je voulais, jusqu'où ses admirations me conduiraient-elles ? Quel souvenir je garderai de cet Altorf ensoleillé ! D'autres endroits peuvent être plus remarquables, mais que ce coin, enfoui dans les montagnes, m'a paru chaud et vivant. Suivi du savant et de mon tuteur, qui courait après nous dans la crainte de désastres moraux, je suis monté au vieux couvent des Capucins. Un jeune moine regardait la belle vue devant laquelle, sans doute, il vient chaque jour retremper sa pensée. « Je suis toujours scandalisé, me dit M. Anvec, en examinant le religieux avec mépris, de voir jusqu'où la folie superstitieuse peut mener un homme en pleine vigueur physique et intellectuelle. « Taisez-vous, dis-je fâché, vous parlez de grandes choses auxquelles vous ne comprenez rien et vous détruisez la poésie de ce poétique endroit. » Nous nous étions rapprochés du jeune capucin qui essaya, dans l'allemand le plus rauque, de nous donner des explications. Je compris vaguement qu'il nous nommait les montagnes dont il admirait la prestance et la couleur. Je criai quelques mots français qu'il ne comprit pas, et avec nous, il se mit à rire gaiement. Ce couvent avait une poésie étrange qu'augmentait l'arôme des roses dont les buissons, avec les allures indépendantes des gens fantasques qui, seuls, comprennent le raisonnable, se sont réfugiés dans les creux où la terre leur permet de vivre. Enfin, perdus dans ces montagnes, les grands efforts des moines simples et rustres s'incarnaient avec la graisse de l'endroit. Au-dessus de leur antique maison est une forêt sacrée, le Banwald. Personne n'ose y porter la hache parce qu'elle protège Altorf contre les éboulements. Dryades et amadryades y vivent en paix, les unes mourant attachées à leur arbre avec la docilité de la vie asservie par une loi immuable, les autres s'échappant de leur retraite pour danser sur les mousses aux délicates clartés de la lune. Que n'ai-je eu le temps d'aller les trouver ? J'aurais fait ample moisson de leurs confidences, compati aux peines des unes et tourbillonné dans la joie des autres. Immobile et l'esprit rempli de visions, je regardais s'animer les êtres de cette forêt enchantée. Jamais je n'avais vu foule plus variée, plus dense et plus légère tout à la fois. Des druides chassaient les dryades et, de leurs faucilles d'or, coupaient le gui symbolique. Puis ils s'enfuyaient devant des ascètes qui, à genoux devant une croix, attendaient en paix que les oiseaux du ciel vinssent leur apporter leur nourriture. Eux-mêmes s'évanouissaient devant les chevaliers guerriers qui troublaient les solitudes et s'agenouillaient devant Circé. L'impétueux courant des transformations les emportait à leur tour, la forêt rentrait dans le silence et la foule légère, immortelle, des dryades, régnait sans conteste dans son empire. Un instant, je pensais à courir dans le Banwald, afin de prouver à mon imagination que jamais elle ne s'égare, mais le Banwald était trop haut. Que de séduisants contrastes dans l'existence! Ici, des moines austères, dont la vie, contenue par une sévère discipline, s'épand cependant, féconde et profonde, par je ne sais quel sentier caché, au-dessus d'eux, dans une forêt sacrée, toutes les folies de la liberté, tous les désespoirs d'être comprimés. Près de moi, un tuteur qui, de sa vie, n'a pensé aux douleurs des amadriades, un fiancé enterré, un savant qui se demandait ce que mes yeux recélaient, et tant d'idées, d'impressions au milieu de beautés naturelles, dont la moindre m'eût inspiré 20 pages éloquentes si j'étais penseur ou poète. Mon cerveau bouillonnait. « Que j'aime cette vie extraordinaire !» m'écriai-je subitement. « Aveugles sont ceux qui ne la voient ni ne la comprennent. C'est un chaos enivrant. »« Hélène !» répondit la voix austère de mon cousin. « Enivrant, je suis dans l'ivresse, tuteur » répétai-je avec malice. « Où vois-tu le chaos de cette journée paisible? Explique-toi en termes convenables. »« M'expliquer? Ouvre-t-on les yeux des gens qui n'en ont pas ?» Le savant murmura quelques mots à son fils qui nous avait rejoints. Il lui disait évidemment que j'étais charmante, mais Percé n'était plus de cet avis, et le souci, le noir souci, assombrissait son regard. Cette vue acheva de me mettre en liesse. Quelle joie! Tout rit aujourd'hui, même les amadriades. Allons voir l'église. Après notre visite, nous descendions sur la route quand nous avons rencontré le pasteur. Un pasteur charmant, un pasteur de tradition, avec le chapeau à large bord, avec les yeux bleus, calmes et limpides. Les yeux d'un homme dont l'esprit est en paix, dont la conscience est libre. Le maître aux prises avec le savant me parut la plus heureuse des pensées et l'achèvement des contrastes qui me ravissaient. « Parlez-vous français, monsieur ? » dis-je en l'abordant. « Oui, mademoiselle. En ma qualité d'étrangère, me permettez-vous de vous poser quelques questions sur Altorf ? » ?»« Oh, mais bien volontiers. Voulez-vous entrer au presbytère ? Non, restons ici, c'est trop joli. » Monsieur de la Platière le remercia de sa complaisance en s'excusant de ma hardiesse et le pasteur nous parla longuement d'Altorf. Peu à peu, je fis dévier la conversation en questionnant sur l'esprit religieux du pays. Nous sommes en deux camps, catholiques et protestants. Cette phrase fut le brandon jeté sur le bûcher tout prêt à flamber. « Absurde, absurde, absurde !» s'écria M. Envec. « Comment peut-on se faire le promoteur de pareilles erreurs ? À mon sens, les gens qui ne croient pas en Dieu sont des imbéciles. Mais cette croyance n'est-elle pas suffisante ? Pourquoi l'entourer d'une écorce déplaisante, matérielle ? La matérialité, poids ! Il faut une loi bien précise pour le gouvernement de la vie, monsieur. Christ est venu. Ah ! Interrompit avec enthousiasme l'antédiluvien immatériel. C'était un homme divin, le plus divin de tous les hommes. Mais Socrate aussi était un homme divin, seulement je dois avouer qu'il n'était pas parfait, car sa femme l'a fait enrager et il n'a pas été sage. Du moins, le christianisme a idéalisé l'amour, tandis que dans le paganisme, l'amour... Et le voilà parti, agitant sa marotte avec l'entrain d'un triboulet, pendant que le doux pasteur, dont les joues s'étaient un peu colorées, répondait avec la chaleur d'un apôtre. Alors les échos des montagnes résonnèrent de la plus étrange des discussions théologiques. Devant les inconséquences et les aperçus extraordinaires du savant, les dryades se cachèrent avec pudeur. percé d'un air penaud, fit rouler des petits cailloux avec le bout de son pied. Mon cousin me regarda avec fureur, comme si c'était moi, vraiment, qui engageais le paléontologue à chercher noise au père de l'Église, au Vatican, à la discipline sur le célibat, et à passer d'aperçus généraux à des subtilités que le pasteur rendait plus subtiles encore. En les écoutant, je pensais à l'homme dont parle Montaigne. Il avait appris à jeter de la main un grain de mil avec telle industrie que, sans faillir, il le passait toujours dans le trou d'une aiguille. Et quand il demanda quelques présents pour loyer d'une si rare suffisance, on lui donna 2 ou 3 minots de mil, afin qu'un si bel art ne demeurât sans exercice. Moi, j'enverrai le père Faber au pasteur et les 39 volumes de Madame Guyon au paléontologue. Cette étude de l'amour pur lui ferait peut-être du bien. Quand nous quittâmes l'apôtre scandalisé, dont les yeux bleus reflétaient l'amertume du croyant qui n'a pu convaincre, mon tuteur me prit à part pour me dire « C'est encore un tour de ta façon, Hélène. Si tu ne dis pas de sottises, il faut que tu en fasses dire aux autres. » « Oh, cousin, pouvais-je me douter d'une chose pareille ? » répondis-je d'un air dévot. « Vous me croyez trop profonde ? » Mais je crois que jamais jeune Française ne s'est autant amusée au pied d'une forêt sacrée. Chapitre 28. Ospenthal, 6 août. À Göschenen, nous avons quitté le train, en dépit de mes regrets, car j'aurais voulu me jeter sous le grand tunnel comme dans un gouffre, et après avoir eu cette sensation terrifiante, me trouver tout à coup en face d'un lac aux eaux argentées, sous le ciel d'Italie pur et brillant. Mais nous nous sommes installés sur le haut d'un énorme omnibus et sommes arrivés ici après avoir parcouru une route sauvage et passé le pont du Diable. Ce nom me fit penser au vieux Saint-Antoine du vieux Callot. Désormais, je ne pourrais me souvenir de ce pont sans y voir le saint tiraillé par ses ennemis sataniques qui veulent le jeter dans les eaux tumultueuses. Mais lui, souffrant et courageux, se tient au parapet. Il pleure, mais il est ferme et son regard douloureux prie. « Pauvre Saint-Antoine ! » m'écriai-je tout ému de pitié. « Où donc ? » dirent-ils, pris à l'improviste et en cherchant de tous les côtés. « Sur le pont du Diable !»« Mais il n'y a personne qui ressemble à Saint-Antoine, » dit mon tuteur. « C'est le nom de ce pont qui me l'a fait évoquer, et je le vois tiré par ses ennemis qui veulent le précipiter dans l'eau. » « Ils ont raison, 3 fois raison, » répondit vivement le paléontologue. « Ah, mon Dieu, quel lièvre venais-je de lancer hors de son gîte ! Je courus après lui, le saisis par les oreilles et l'enfonçai dans son terrier en abandonnant Saint-Antoine sur son pont pour parler de la pluie et du soleil. Mais de la pluie, nous vîmes à parler de la Suisse. De la Suisse, nous passâmes à notre pays, et le savant, odieux décidément, qui possède ce travers, si ridicule et si répandu à notre époque, de n'admettre que les qualités des étrangers, nous expliqua ses rêves de patrie universelle. Et Percé ne protestait pas, au contraire. Je les aurais étranglés, tous les deux, avec un bonheur sans pareil. « Vous êtes, dis-je, d'affreux contempteurs des choses les plus sacrées. » Contempteur, le mot est dur, dit le capitaine en souriant. Comment osez-vous rire? Mais je ne pus continuer, car s'il est un sujet qui émeut mon âme, c'est celui-là. Quand je pense aux qualités fines et chevaleresques de notre race, qui devraient, selon certains, céder le pas aux qualités des peuples nouveaux, mon cœur, ma raison, mon imagination protestent. Que le vain rêve d'une patrie sans originalité, sans frontières, se réalise dans les esprits spéculatifs, mais qu'en réalité, je puisse être une Française du doux pays de France. Je l'atteste, la corneille qui, à la platière, vint se percher à l'extrémité de mes branches, n'est point la même que celle des autres contrées. Et quand je me penche avec tant de plaisir sur les fleurs des champs que je vois ici, à mon impression se mêle un sentiment fluide, mais enveloppant, qui est le souvenir de celle que j'ai aimée dans le pays où l'ombre des grands pins dédaigneux a protégé mes premiers rêves. Si ma physionomie n'exprimait pas tous mes sentiments, du moins elle était devenue mélancolique, car la fibre qu'on avait froissée est délicate et sensitive. L'homme d'avant le déluge me regarda avec intérêt et me dit « Ondoyante d'une façon extraordinaire, il y a un instant, l'image de Saint-Antoine que vous évoquiez amenait plutôt un sourire sur votre visage. Maintenant, vous êtes triste. Nous vous avons fait de la peine ?»«
Oui, » répondis-je sèchement.
Je refusais de discuter. La discussion ne peut donner à maintes gens, et ils étaient du nombre, ce que la nature leur a refusé. Ensuite, ainsi établi sur le sommet d'un omnibus, je n'avais pas mes coudées franches pour la véhémence de mon indignation. Mais je disais tout bas, aux montagnes et aux vallées, que Percé et Mademoiselle de la Platière ne sont point de la même espèce. En attendant, nous ressemblons aux coches dans un chemin sablonneux, et la grosse mouche, qui est venue de France pour exciter l'attelage, enfonce et enfonce encore les roues dans l'ornière.